stool.
Ou stool.
À table.
À table.
Produire,
récolter,
transformer,
cuisiner,
transmettre.
La nourriture nous relie et fait vivre nos imaginaires.
Alors écoutons, partageons
et régalons-nous en suivant cette émission proposée par l'association 4Quarts.
Tous les chemins mèneront à l'assiette.
Bonjour et bienvenue dans l'auberge de l'association 4Quarts qui vous propose cette émission conviviale et partageuse. Oustol est une émission qui vous offre bonne chère et bel esprit, surtout bel esprit aujourd'hui. C'est en compagnie d'un sujet et de convives. Et aujourd'hui, le sujet, c'est une pratique, une manière de faire. Comment qualifier cette idée?
Un petit immeuble en périphérie de Grosville. Les locataires de cette petite bâtisse rue Daniel Ducruet se sont réunis chez Abdel, le patriarche. C'est plutôt étroit, pas très propre et bruyant. Mais tout le monde semble s'amuser. Pourtant, il n'y a pas de quoi. La vacuité de la discussion ambiante est patente. On parle tiercé, école des enfants, pneus rechappés, et la nourriture est improbable.
Un peu d'humour avec nos amis de Groland et leur vision de la fête des voisins. Car aujourd'hui, nous discutons de cuisine avec son voisinage. Enfin, de cuisine au sens large. De partager en tout cas des aliments, voire des ustensiles. C'est une idée de Françoise Doucet, qui n'est pas toute seule cependant. Avec elle, autour des fourneaux, il y a aussi Sophie Kouka et Eliane Lardier. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Merci d'être là pour nous donner des idées qui vont réenchanter la cuisine collective dans cette émission Oustol version 2024. Alors on va commencer par vos impressions ou souvenirs liés à l'échange culinaire alimentaire avec les voisins. Souvenirs d'enfance peut-être, Eliane, non?
Oui, souvenirs d'enfance, bon. On va dire, je reviens aux sources parce que je me rappelle de mon enfance. Donc, on passait à côté de chez le voisin. Donc, on amenait toujours, on revenait du marché. Donc, on amenait toujours un fruit. Après, ça pouvait être un morceau de gâteau. Après, ça pouvait être un peu de ce qu'on avait cuisiné. Donc, c'était des échanges agréables. Et chaque jour, et ici maintenant, bah, je fais la même chose aussi avec mes voisins. Donc on partage. Quand je fais quelque chose bah, pour leur faire plaisir, bah, je partage avec eux. Et eux aussi, quand ils ont quelque chose dans leur jardin, et aussi bien quand ils cuisinent, ils partagent aussi.
Françoise ?
Alors moi, ça a commencé aussi, c'est des vieux souvenirs. Hein. Papa allait à la pêche toutes les semaines. Et bah, il y avait des fois où il rentrait sans rien. Et puis des fois, il y en avait beaucoup trop. Et donc, on partageait avec les autres voisins qui étaient complètement ravis. Mais comme on était dans un petit village de pêcheurs, et ben, c'était dans les deux sens. C'est-à-dire, le jour où papa ne pêchait pas, il pouvait recevoir des autres voisins. Aujourd'hui, les parents sont à la retraite. Papa pêche beaucoup moins. Il a du mal à monter sur son bateau, donc il reçoit toujours le poisson des voisins.
Pour ses bons et loyaux services.
Voilà, mais en échange, comme les parents se sont mis au jardin, eh bien, ils proposent des légumes. Et je trouve ça assez exceptionnel.
C'est honnête, ouais, ouais, tout à fait. Sophie, un souvenir éventuellement?
C'est un souvenir de quand j'étais étudiante, parce qu'à l'époque, on était en cité universitaire et bon, on avait la chance d'être avec des femmes de ménage qui ne nous dénonçaient pas, puisqu'on n'était pas censé faire à manger dans nos chambres.
Ah oui.
Mais bon, en fait, on faisait à manger et on n'avait pas beaucoup de place. Donc, dans l'étage, chacun avait Enfin bref, on se partageait le matériel et on mangeait ensemble. Souvent, il y en avait un qui faisait une salade. Enfin, on se faisait à manger et on mangeait les... On était une vingtaine de chambres à l'étage et il y avait toujours 7-8 étudiants autour de la... Enfin, c'était des choses simples, hein, des plats de pâtes, des salades de riz, etc. Et en plus, non seulement il y avait cette collectivité, alors qui était aussi pour des raisons économiques, hein, tout simplement, c'est que ça nous coûtait moins cher de faire ça que d'aller au resto. Et puis, ça a été aussi l'occasion, puisqu'on était peu de filles pour beaucoup de garçons, ça a été l'occasion de les former, en fait. Mmh. Ça a été l'occasion pour eux d'apprendre les bases Quand je dis les bases, je pense à l'un qui a appris qu'il fallait mettre de l'eau pour faire cuire du riz.
Ah ouais, quand même. Ah ouais, on parlait.
Et parce qu'il avait vu en fait faire avec un petit riz, un genre riz. On fait des oignons, on fait rissolé, le riz, puis après on rajoute le bouillon. Sauf que lui, il a vu le début,
il avait pas vu le bouillon.
Le bouillon, donc il a dit si, je sais faire, j'ai vu. Et puis en fait, Et je m'en souviens d'un autre qui lui faisait réchauffer ses boîtes de conserve dans la casserole dans l'eau, mais qui les ouvrait pas. Et qui disait oh là là, c'est trop long.
Oui, en effet.
Et nous, on disait heureusement qu'elle t'a pas explosé à la figure.
Ah ouais, c'est une chance.
Voilà, c'est pour dire que c'était les bases. Mais c'est vrai que ce temps de partage, il a aussi été un temps. Et pour être honnête, des années après, on est restés copains. Enfin, c'est quand même des liens qui sont tissés dans cette petite vie quotidienne.
On va s'arrêter là. Pour l'instant, on était sur les souvenirs. Moi, je vais vous exposer le mien qui était rigolo. C'est-à-dire que la maman de ma meilleure amie, elle acceptait d'avoir les enfants en cuisine, contrairement à la mienne qui n'était pas trop partante. Et une fois, on avait fait... c'était un gâteau qui s'appelait le gâteau Hermann. Je ne sais pas si vous avez connu. Voilà, c'était un gâteau. En fait, c'est une sorte de levain qu'on cuisine en gâteau et qu'on se transmet. On garde une partie de pâte crue pour la transmettre à quelqu'un d'autre qui va faire son gâteau Hermann, etc. Donc là, c'était vraiment le partage suprême, donc je trouvais ça rigolo. Voilà, fin de la séquence souvenir. On commence le sujet. Alors, je sens que vous avez plein de trucs à dire sur ce sujet de partage avec son voisinage au sens large, enfin, un partage alimentaire. Alors, c'est Françoise quand même qui a suggéré ce sujet. Donc, Françoise va nous dire un peu ce qu'elle mijotait quand elle a proposé ce sujet.
J'avais envie de partager, hein, au même titre qu'Eliane, toutes ces petites expériences au quotidien qui font que la vie est plus douce, hein, qui font que les échanges sont plus fluides, qui tissent un peu des relations de confiance au fil de l'eau, sans attendre rien en retour. Hein, je pense que c'est quelque chose d'important. Je sais pas si c'est de la générosité, je pense que c'est l'envie d'être ensemble, l'envie de partager, l'envie de transmettre, l'envie d'avoir des émotions aussi au travers de ce que l'on goûte, de ce que l'on découvre. Puisque quand les voisins nous apportent aussi quelque chose, c'est pour la découverte sensorielle. L'envie de partager des moments, je dirais presque inoubliables, parce que ça passe par le corps, puisqu'on goûte, par le cœur, parce qu'on aime bien être avec... On ne le fait pas avec les voisins qu'on n'aime pas. Et par l'esprit aussi, parce qu'on se souvient d'une recette et puis on en parle longtemps après.
Oui, Eliane.
Et je pense aussi, ça enlève aussi l'isolement.
Oui.
Voilà, parce que ça crée un lien, parce que, je ne sais pas, on a des voisins. Est-ce qu'on ne devrait pas s'inquiéter qu'on ne voit pas les voisins?
C'est un prétexte. Quand ils sont âgés.
S'ils ne sont pas âgés. Je veux dire, parfois on parle des gens âgés, mais on dit toujours qu'il y a tant de jeunes qui sont isolés derrière leur ordinateur ou leur jeu de vidéo.
Et qui ne savent pas cuisiner en plus.
Oui,
je dirais même que c'est presque le prétexte pour aller dire bonjour.
Voilà, mais je trouve que c'est
extraordinaire.
Il ne faut pas qu'on reste toujours sur les gens âgés. Dans la solitude, il y a toute génération.
Mais avant de partager des plats, le plus simple, c'est peut-être de commencer en effet par partager des produits bruts, enfin, comme disait Françoise, du poisson, des légumes, des fruits.
Et avant même de partager les produits bruts, si on reprend le process, j'ai un voisin là sur le fou de 88 ans, avec qui je suis allée jardiner pour l'aider à planter des haricots blancs. Déjà, ça commence par la plantation.
La fameuse confrérie du haricot qui est très liée à l'association 4 quarts, des haricots j'osais pas endémiques, hein, c'est ça.
Je n'ose plus rien dire. Donc c'est vrai que quand on va gratouiller la terre, planter, mettre les tuteurs, etc., ça crée un lien. Que ce soit des personnes d'un certain âge, mais moi je le fais avec des seniors qui ont un peu mal au dos, etc. Et c'est génial, ce temps passé ensemble. Donc ça commence depuis mettre les graines en terre. Voilà
et puis ça,
ensuite il y a la récolte.
Ça crée le lien et ça enlève la solitude à cette personne qui est seule.
Oui,
et ça peut être une initiation aussi au jardinage, parce que quand soi-même on n'a pas le temps, parce qu'on travaille, de jardiner vraiment, c'est vrai qu'aller de temps en temps gratouiller dans le jardin du du voisin ou de la voisine.
Il nous en a
mal,
beaucoup.
Quoi.
Et puis une personne qui est de 88 ans, qui a passé tout son temps dans son jardin, enfin toute sa retraite dans son jardin, on en apprend autant qu'on ne lui en apporte.
Il y a un savoir-faire à transmettre.
Donc il y a un savoir-faire, il y a de la transmission, il y a dans tous les sens. Et je suis très surprise de savoir ému. Alors bon, après, j'ai de voir en fait l'impact que ça a sur lui. Il y a un avant, et puis il y a quand je pars, où il a retrouvé le sourire.
Mais oui, ça n'a pas de prix. Ça.
Je rebondis sur ce que tu disais, Eliane. Effectivement, il n'y a pas que les personnes âgées. Je pense qu'il y a une autre population dont on parle beaucoup moins, c'est les enfants. Oui. Et quand on parlait de transmission, moi j'ai été élevée à la campagne, et c'est vrai que c'est une époque où les enfants, ça posait de problème à personne, qu'ils sortent, qu'ils aillent un peu vivre leur vie. Et les gens étaient habitués à les récupérer. Enfin, moi personnellement, mes parents n'étaient pas agriculteurs, mais j'adorais aller à la ferme qui était en face. Et la fermière, elle nous avait 7-8 gamins dans ses pattes. Et du coup, elle nous faisait faire des choses, on avait le goûter. Enfin, moi, j'ai appris avec elle des choses que j'aurais jamais appris si je n'étais pas sortie de ma famille. Parce que c'était pas du tout les mêmes savoir-faire. Et je trouve qu'aujourd'hui, les enfants sont très enfermés. On les voit peu dans les rues, on les voit peu. Et les voisins, c'était aussi une partie de transmission, d'éducation. Ça permettait... c'était
plus
fluide
avant. Ah oui,
moi j'ai
appris plein de trucs chez ma voisine en question,
C'était beaucoup plus fluide avant pour les enfants d'aller dans d'autres maisons, d'être accueillis. Et c'était important. Et le fait qu'aujourd'hui, c'est plus trop dans les mœurs, je pense
mais
que c'est...
ça arrive encore, on en
c'est,
trouve. Hein.
C'est une perte pour les enfants. Oui. Voilà. Mmh. Ça, je pense qu'il n'y a pas que les personnes âgées, il y a les gamins aussi.
Il y a toute génération. Hein, parce que, par chez nous aussi, où j'habite, donc pareil, les enfants, quand je faisais des crêpes, les enfants que je connais, pareil, on donnait des crêpes aux enfants.
Oui, mais c'est bien de leur apprendre à faire les crêpes, c'est vrai.
Voilà.
C'est...
On fait ça aussi chez nous. Quand
les enfants peuvent le faire.
Enfants, on est contents quand il y a
mais
des enfants.
Mais les voisins, aussi. L'intérêt pour un enfant, c'est une forme de liberté. C'est parce que les voisins, l'enfant peut y aller tout seul.
Oui, voilà.
Parce qu'on va me dire, mais on peut aller. Bah oui, mais là, il faut prendre la voiture. Alors que le voisin, c'est...
C'est déjà
c'est
la, une terrain cognita.
Voilà.
Ouais,
et en même temps, c'est accessible à pied, c'est pas très loin. Il y a pas... Bon, après, on peut trier les voisins chez qui les enfants vont.
Bien sûr.
Et là, on parle quand même de configuration rurale, enfin en tout cas maison-jardin, mais en fait, c'est peut-être plus facile dans les immeubles, dans les villes, finalement, entre voisins. Il suffit de commencer par aller chercher du sel ou un ingrédient qui nous manque un soir, et puis peut-être que ça peut créer aussi des liens. Enfin, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais c'est Sophie en parlait un peu avec son collectif d'étudiantes. C'est...
Le colcos, allez.
Voilà. Après, il y a les colocations. Alors, peut-être, je ne sais pas si les colocations, de fait, ils cuisinent ensemble, les colocataires, peut-être pas.
Mes enfants ont été beaucoup en colocation pendant leurs études. Et oui, ça rappelait un peu le même fonctionnement. Je pense qu'il y a des colocations, chacun vit sa vie. Mais il y a quand même beaucoup de colocations, surtout avec les jeunes, où finalement, ils partagent.
Oui. Moi, j'ai vécu
repas,
ça. Moi, j'ai vécu en HLM militaire et donc on a fait le partage de la pâtisserie, comme tu disais, un échange. On faisait la pâtisserie ensemble et certains plats ensemble que j'ai découvert avec une asiatique que je connaissais pas, très sympa, qui m'a appris à faire les nems.
Et moi, oui, je lui ai
appris à faire les acras, les plats de chez moi. Et on a fait un échange de culture.
C'est ça, en fait.
Voilà, un échange de culture.
Ouais.
Voilà. Je vais faire un tout petit pas de côté, mais il y a des voisins, c'est ce que tu dis, Eliane, qui m'y fait penser. Il y a des voisins un peu particuliers qui sont en fait les collègues de travail. C'est quand même des gens qu'on rencontre au quotidien. Et il y a aussi ce niveau d'échange sur...
Nous, à la radio, on n'arrête pas, puisqu'on est tous et toutes gourmands. Donc, on n'arrête pas de s'échanger, soit de se faire goûter des plats, soit de s'apporter des produits. C'est vrai, ça, c'est une collectivité culinaire, le travail, enfin, l'univers du travail, qui peut être assez riche aussi. Alors, c'est difficile de faire des ateliers cuisine. Il faut être équipé au travail.
Mais c'est quand même le même lien un peu avec les voisins. Ça. Des gens avec lesquels on est en lien. Bon, on ne les a pas forcément choisis. Et en même temps, on tisse des solidarités qui sont importantes, en fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont malheureux au travail, justement, parce qu'il n'y a plus ce niveau de partage et de lien qui, avant, était un peu quand même la norme dans le...
Ah oui, je ne sais pas.
La solitude dont parlait Eliane dans les études sur les burn-out, les conditions de travail, la solitude, c'est un point qui apparemment remonte énormément
au travail.
La solitude au travail.
Et je pense quand même encore au travail, les gens qui travaillent ensemble entre leurs collègues. Quand, par exemple, ils amènent leur boîte, ils doivent partager aussi, je pense. Ils
doivent avoir ça arrive, hein, on fait goûter. Ah. Hein, mais après, on n'a pas tous les mêmes exigences alimentaires. Enfin, malheureusement, il y a aussi des allergies ou des choses comme ça.
Ça fait des liens, normalement. Et je pensais que... Enfin, c'est mon avis que avant, j'ai connu ça. Donc, je pensais que ça existe.
Il y a des partages plutôt de sucrerie.
Ah oui.
D'accord.
Oui, ça, oui. Si c'est un gâteau maison, ça va.
Pour les anniversaires.
Oui, c'est ça.
Ah oui, oui, ça, les anniversaires, oui.
Mais sur les plats principaux, pas forcément.
Le fait qu'ils se retrouvent à midi...
Oui, on peut manger ensemble, enfin, on ne mange pas la même chose.
Je pensais que dans l'entreprise, ils pouvaient avoir un...
Ça peut arriver sans doute, mais c'est pas systématique, non. Je pense que chacun. Puis après, il y a des gens qui préfèrent aller manger au restaurant le midi avec leur ticket resto. Enfin bon, ça c'est. Non. Ça, je pense que c'est plutôt les petites unités où on arrive à faire éventuellement des repas partagés. Puis ça demande une organisation, ça demande d'avoir les mêmes horaires. Enfin, nous, concrètement, à la radio, on ne le fait pas. On se fait goûter des choses. Parfois, on fait un gâteau quand il y a un anniversaire.
Oui, voilà, quand y a un
anniversaire, mais on ne fait pas. Chacun fait son repas et chacun. On mange pas à la même heure. Hein. Déjà, rien que ça.
Et vous n'avez pas les mêmes goûts.
Et on n'a pas les mêmes goûts aussi. Et puis voilà, on n'a pas les mêmes habitudes alimentaires. On a des prescriptions médicales différentes.
Bien sûr.
C'est ça. Hein. Et alors, il y a aussi un degré quand même très facile de partage. Parce que c'est vrai que, comme disait Françoise, finalement. Accepter un mets, un repas, un plat qui a été préparé par quelqu'un d'autre, c'est quand même lui faire confiance, bah, notamment sur les règles d'hygiène, les choses comme ça. Donc, en première étape, on peut peut-être juste se prêter des ustensiles. On parlait des ustensiles dans une émission précédente, ça peut être ça, mutualiser les ustensiles un peu particuliers, non ?
Aussi, oui. Ça n'a aucun rapport, mais les hommes se prêtent aussi des outils. Alors pourquoi pas les femmes
Femmes. Mais... Alors là, on ne va pas dire les femmes. Alors là, les hommes et les femmes en cuisine, il faut absolument s'enlever de la tête que c'est les femmes en cuisine. Là, on s'est interdit dans cette émission. Ah non, c'est vrai. En plus, c'est faux. C'est faux. Enfin,
mais c'est pareil sur les outils. Hein. Oui. Les outils, c'est les femmes et les hommes qui bricolent.
Exactement.
Plein de femmes qui bricolent.
Alors, en termes de mutualisation de matériel, c'est vrai que les grosses marmites, ça je monte souvent chez une autre voisine pour aller chercher de grosses marmites.
Celle qui prend bien de la place qu'on ne sait pas où mettre.
C'est exactement ça. La poissonnière aussi en bord de mer. Alors les anciennes poissonnières, vous voyez. Dans lequel on fait cuire le poisson entier. Puis alors quand c'est des gros poissons comme ça, voilà. La poissonnière, elle est longue, hein, fait presque un mètre. Donc on se la prête.
Il faut avoir le four qui va avec. Hein.
Non, c'est sur le feu.
Sur le feu.
Sur du gaz.
Ouais.
Ah oui, donc comme la poêle à paella ou des choses comme ça, on n'a pas tous chez nous.
Et puis qu'on n'a pas envie d'avoir non plus.
Non, pas trop.
Voilà, donc ça c'est un autre exemple.
D'où l'intérêt derrière des prétothèques qui se développent.
Des objets tech, comme l'objet tech de Cornouailles à Quimper.
Nous ça s'appelle une prétothèque, mais c'est le principe. C'est d'avoir des choses que, bon, on paye une petite adhésion. Et puis, quand on a besoin, justement, dans l'idée qu'il y a tout un tas d'éléments de cuisine ou de...
Ah bah l'appareil à raclette et l'appareil à fondue, ça c'est vraiment typique.
L'amylique.
Oui, c'est vrai.
Ça c'est vrai que, alors après, il faut savoir tout.
Ouais, mais c'est surtout que c'est lourd à trimballer.
C'est lourd, c'est encombrant, c'est pas le ranger. Et puis, il y a les stérilisateurs aussi, les grandes marmites aussi, qui vont sur le gaz.
Pour faire ces fameuses conserves.
Pour faire les conserves. Et juste, je peux faire un petit aparté par rapport à la conserve artisanale, parce que autant les autres types de cuisson, il n'y a pas de risque sanitaire, autant quand on se lance dans la conserve, il y a des petits trucs quand même à savoir, parce que ça peut être dangereux, ça c'est humblement, on peut le dire.
Pour ne pas tuer ses voisins, sauf si on en a l'intention.
Voilà. Ça, j'aurais pas osé le dire. Ça ne m'était même pas venu à l'idée.
Moi, ça m'était venu à l'idée, c'est ça qui est terrible.
J'avais pas osé le dire.
Donc des conserves
donc,
sans botulisme.
Des conserves sans botulisme. Donc, je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple du haricot vert, par exemple. Les haricots verts, déjà, alors quand on fait une conserve, il ne faut pas penser que parce qu'on va cuire longtemps, parce que dans le livre, c'est marqué à 100 degrés pendant 45 minutes pour cuire mes bocaux de conserve, pour les stériliser. Donc, je rappelle que la stérilisation, c'est du zéro microbe à l'arrivée. Du coup, il faut que, initialement, la matière, elle soit déjà propre. Voilà. On peut pas dire, ouais, non, mais attends, la conserve, ça va tout tuer. C'est faux. Et
Donc il faut un joint neuf déjà.
Il faut un joint neuf à l'emboîtage, mais ça, on est déjà sur le bas du process. Mais en début de process, déjà, je lave tous mes légumes.
Mais à l'eau juste, quoi, ça suffit.
Oui.
Pas besoin de mettre du bicarbonate ou du vinaigre blanc.
Non.
D'accord.
Non, ou du jus de citron. Oui. Après, s'ils sont vraiment sales, c'est une ou voire deux autres de lavage. Voilà. Et je parle du haricot vert parce que je cache le sol.
Ensuite, le haricot vert. Ah, bah non, oui, ça dépend. Si les grimpants comme les miens, ils touchent pas du tout.
C'est ça, les miens sont pas grimpants, ouais. Ils touchent le sol.
Enfin, il peut y avoir des côtes de pigeons.
Oui, il peut y avoir. Voilà. Il peut
Les renards.
Pas pour les grimpants. Ensuite, il faut vraiment, quand on emboîte, bien respecter les quantités. Si on vous dit d'emboîter avec 500 grammes de haricot vert, vous mettez pas 700. Parce qu'après, la répartition de la chaleur va pas être la même pour le barème donné. Ouais. Donc, c'est un peu technique, mais quand on vous dit avec 1 kg de haricots verts, vous faites deux bocaux de 500 grammes avec des bocaux de 750 ml, vous ne mettez pas 600.
OK.
Donc, on ne peut pas dépasser.
C'est bien noté.
Ça, c'est après à l'emboîtage ou quand on emboîte. Donc, on met nos haricots verts, on met bien nos 500 grammes. Et puis après, on met notre eau salée. Et en fait, il faut pas remplir jusqu'au bout.
Voilà.
Il y a un espace de tête, finalement, à respecter pour permettre que la cuisson et pour permettre au volume d'air de s'expanser et de pouvoir être expulsé. Malgré le joint orange, parce qu'on va être en surpression à l'intérieur de notre boîte de conserve. Et donc, du coup, l'air qui a pris du volume va s'expulser. Donc, il ne faut pas que l'eau s'expulse et que le haricot vert, parce que ça va être trop bombé, non plus de la conserve. J'exagère un petit peu, mais c'est vraiment ça l'enjeu.
Oui, c'est pas parce que ce n'est pas de la viande qu'il n'y a pas de risque. Hein, parce que parfois, les gens croient que les risques, c'est uniquement avec la viande.
J'ai un ami proche qui a toute sa production, donc il avait 50 boîtes de conserve de haricot vert, toute sa production a été à jeter.
Ah oui, c'est...
Toute
mais sa il s'est rendu compte, il a eu de la chance de se rendre compte, non ?
Oui, parce qu'à l'ouverture, ça sentait pas bon. Mais il faut toujours faire attention. Donc un poids identique à l'emboîtage, bien laisser de l'espace. Aussi, quand on vous donne un barème de stérilisation, alors si je prends un autre exemple, je prends par exemple de la soupe de poisson. La soupe de poisson, il faut absolument l'emboîter déjà chaude. Donc vous la faites, vous la passez, vous la remettez, quitte à la remettre un petit peu sur le feu pour qu'elle soit à ébullition. Donc
un petit bouillon,
quand vous allez emboîter, vous allez être à 98 degrés, 99, proche de l'ébullition. Et après, vous remettez dans le stérilisateur avec l'eau qui va lui-même monter en température. Mais il faut emboîter avec une température chaude de départ, sinon le barème de stérilisation ne va pas fonctionner. Voilà, moi je voulais juste dire ça. Bien sûr, avoir un joint propre et puis neuf à chaque fois. Donc ça, c'est super important. On peut le ramollir un petit peu aussi avant dans l'eau pour qu'il s'expanse un peu, qu'il soit un peu gonflé, un peu dodu. Et ça, c'est mieux parce que ça va mieux coller derrière. Et puis bien vérifier que le joint soit bien positionné, bien au centre. Parce que du coup, il va y avoir des fuites sinon. Et puis après, bien appliquer le barème. Donc, c'est les bonnes quantités de produits. C'est bien laisser l'espace de tête suffisant pour ne pas bomber à fond. Et surtout, la température de départ avant la stérilisation est hyper importante. Donc, plus vous emboîtez chaud, plus vous aurez une conserve stérilisée, sûre.
Voilà. Qu'on peut
et il y a tellement de
qu'on peut offrir à son voisinage
et même quand on l'aime pas. Voilà, c'était une parenthèse qui me semblait importante.
C'est bien noté. La dernière séquence, une recette, un conseil, un truc
Oui, carrément. Les poires au sirop de ma chère, de notre chère voisine. Voilà, donc un jour elle m'initie à ses poires au sirop dans son stérilisateur. Et c'est donc les deux bocaux de la marque, 750 millilitres, on ne citera pas de marque, deux joints neufs, un kilo de poire, du citron. Donc là, vous ébouillantez les bocaux et les joints, j'ai oublié de le dire, pour être sûr aussi toujours. D'être sur du matériel stérile. On épluche les poires et on les réserve. C'est là où ma poire, je l'ai un peu traficotée, etc. Je la rince, je peux la mettre dans une eau citronnée aussi.
Hein. Frotter avec le citron.
Ou je mets dans une eau citronnée parce que ça évite aussi qu'elle s'oxyde, la poire. Je porte mon sirop à ébullition, donc c'est un litre d'eau pour... j'ai adapté la recette, je suis à 250 grammes de sucre. On peut monter jusqu'à 300 grammes si on veut un sirop vraiment sirupeux. Moi, je ne l'aime pas trop sirupeux, donc je mets plutôt 250. Voilà, donc je fais bouillir. Ensuite, je dispose mes poires, je mets mon sirop brûlant, ma gousse de vanille, je ferme tout de suite avec le joint et je mets à stériliser ma et à partir de la cocotte en ébullition, à partir de l'eau de la cocotte en ébullition et pas avant, je compte 40 minutes à 45 minutes en fonction de la grosseur de la poire. Un point important aussi, c'est pour continuer, pour gagner de la valeur un peu stérilisatrice, je laisse toute la nuit ensuite mes bocaux dans l'eau chaude qui va refroidir petit à petit pour gagner un petit peu de stérilisation supplémentaire. On retire jamais tout de suite. Voilà. Elle est géniale, cette recette.
Eh bien, merci beaucoup, Françoise.
Lendemain, il faut vérifier si tous les pots sont scellés.
Oui.
Quand c'est froid, donc on ouvre pour voir si tout est hermétique.
Ah, on ouvre, t'essayes d'ouvrir.
Mmh, on essaye.
On n'ouvre pas. Parce qu'en fait, ça sera stérilisé si tu ouvres et si tu refermes. Ouais, c'est bien.
Je veux dire, on ne tire pas, mais on regarde si ça.
C'est hyper important. Le joint, est-ce qu'il est bien positionné?
Eh bien, merci mesdames. Merci Françoise. On se retrouve très bientôt sur les ondes de Transistor. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Le mois prochain, on va creuser un sujet qu'on a un peu abordé dans cette émission. On s'intéressera à l'alimentation des plus âgés, des personnes de plus de 80 ans. Bon, c'est une limite qu'on a fixée comme ça. Vous retrouverez cette émission Oustol en podcast sur le site internet de la radio.
Oustol sur les ondes de Transistor.
Et en podcast sur le site internet.